Les tsars du ballon rond. Le quart d'heure des spécialistes.
Le quart d'heure des spécialistes, c'est maintenant donc dans les tsars du ballon rond, notre émission consacrée à la Coupe du Monde de football. Et notre spécialiste du jour, c'est Christophe Moulin, chef du service du football d'élite à l'Association Suisse de football. Christophe Moulin, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors Christophe Moulin, à vous d'évoquer le match de ce soir. On va laisser la parole à notre chroniqueur maison, Jérôme Moutet, qui vous avait tiré le portrait il y a de cela quelques jours. Alors, il ne va pas retirer votre portrait, mais cette fois-ci, il avait évoqué une autre personnalité du football mondial. En l'occurrence, il s'agit du gardien Jordan Pickford, le gardien donc de la formation anglaise.
Jordan Lee Pickford, vous êtes né à Washington, mais attention, pas le Washington où siège dans un bureau ovale un promoteur immobilier devenu par hasard président des États-Unis. Non, vous, c'est le Washington d'Angleterre. Et là, il n'y a pas de promoteur immobilier, c'est normal, il n'y a rien. Vous êtes donc né là-bas le 7 mars 1994, année de naissance de Justin Bieber et de pas mal d'autres personnalités qui sont déjà décédées. Alors accrochez-vous aux branches. Vous êtes anglais et gardien de but, ce qui fait de vous déjà deux bonnes raisons de ne pas croire en vous, justement, car avant vous, le sillon a été tracé par une belle équipe de tocards comme Joey Hart, David Seaman, David James, une belle brochette de ratés qui ne vous ont pas facilité la tâche à ce poste. Mais vous, vous êtes Jordan Lee Pickford. Mais ça ne vous empêche pas de débuter votre carrière de façon assez obscure. En 2011, vous arrivez à Sunderland, bravo, qui vous prête à toute une ribambelle de clubs dont personne ne connaissait l'existence. Darlington, Alfredton Town, Burton Albion, Carlisle United, Bradford ou encore Preston. En 2016, vous êtes enfin de retour à Sunderland pour une saison pleine et vous prenez part à 32 matchs. Et c'est là que l'incroyable arrive. Le 15 juin 2017, vous vous engagez pour 5 saisons avec Everton pour la somme hallucinante de 34 millions d'euros. Et du coup, vous devenez le troisième gardien le plus cher de l'histoire du foot derrière Buffon et Moraes. Le 3 août suivant, vous disputez votre premier match avec Everton lors d'un match qualificatif pour la Ligue Europa, gagné 1-0. Vous jouez ensuite l'intégralité des 38 matchs de Première Ligue, ce qui vous vaut d'être élu meilleur jeune joueur anglais de l'année 2017. Alors votre parcours suscite l'intérêt du sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, Gareth Southgate. Et si le pays tenait en vous un prodige au but ? Personne n'y croit. Mais le 10 novembre 2017, vous honorez votre première sélection avec l'équipe d'Angleterre en étant titularisé lors d'un match amical face à l'Allemagne. Vous faites ensuite partie des 23 sélectionnés pour le mondial russe avec en point de mire des bourdes à répétition. Et oui, ça fait 25 ans que ça dure, pas de raison que ça change. Sauf que vous, vous êtes Jordan Lee Pickford. Southgate vous met titulaire lors du premier match face à la Tunisie. Mais il est fou! Vous n'avez que 3 misérables sélections, aucune expérience à ce niveau. Ça va être une boucherie, la honte sur l'équipe d'Angleterre. Oui, sauf que vous, vous êtes Jordan Lee Pickford. Vous enchaînez les bonnes performances. Tunisie, Panama, Belgique, vous ne vous arrêtez plus et arrive la Colombie en huitième de finale. Le match se termine au tir au but et vous repoussez la cinquième tentative colombienne et à partir de cet instant-là, plus rien ne sera jamais comme avant pour vous. Vous devenez un héros national qui plus est que lors du match suivant en quart de finale face à la Suède, vous faites 3 parades monumentales. Vous êtes nommé homme du match et votre équipe se qualifie pour le demi-finale de la Coupe du Monde. Oui, avec un gardien de 24 ans qui peut dorénavant regarder de haut tous ses prédécesseurs. Jordan Lee Pickford, quoi qu'il arrive maintenant, se souviendra de vous comme étant une personne avec une belle boule, une bonne bouille d'anglais, avec qui on aimerait bien boire le thé, mais aussi avaler des litres de Guinness. Mais on se souviendra surtout de vous comme étant la preuve vivante que l'Angleterre peut aussi former des gardiens de très haut niveau. Un espoir que tout le monde avait perdu suite aux performances de vos prédécesseurs. Alors, pour tout cela, Jordan Lee, on vous dit bravo et merci.
Christophe Moulin, évidemment, ce portrait ne vous concerne pas, mais allons, on va peut-être s'arrêter sur celui-ci parce qu'il y a quand même eu des propos très intéressants de signaler par Jérôme Moutet, Jordan Pickford, qui a été déterminant par certains moments, notamment contre la Suède. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce gardien anglais? Parce que c'est vrai, ses prédécesseurs n'ont pas toujours été convaincants, en tout cas, on a été très critiques vis-à-vis d'eux.
Alors disons que Jordan Pickford, pour moi, c'est un gardien qui est très intéressant, déjà pour nos jeunes, parce que c'est un gardien qui montre qu'un parcours, c'est pas toujours un parcours linéaire sur une autoroute et ça va tout droit et c'est tout facile. On doit parfois passer par des clubs, passer par des prêts, et ce gardien-là a fait justement plusieurs clubs avant d'avoir sa chance à un plus haut niveau. Maintenant, si on compare avec la Suisse, je dirais que c'est un gardien qui ressemble beaucoup à Yann Sommer, parce qu'il a un jeu qui est exceptionnel. Bon, lui, il est de gaucher, par contre. Et puis, c'est un gardien qui est très explosif, pas très grand non plus. On dit qu'Yann Sommer est un des plus petits gardiens du mondial. Mais Jordan Pickford, il fait 1m84, je crois.
Bon, 1m84, c'est déjà, j'ai envie de dire, considérable. Bon, c'est pas forcément courtois, mais c'est quand même, ça commence à devenir une taille intéressante pour un gardien.
Alors pour les gardiens, on dit maintenant la taille idéale, je crois que c'est 1,88 et 1,94 dans le football moderne. Donc Courtois est trop grand, mais bon, il va bien quand même comme ça. Mais c'est vrai qu'actuellement, on cherche plutôt des gardiens autour du 1,90 que du 1,83-84.
Alors Pickford, le fait qu'il ait été titularisé à l'époque, ça vous a surpris? 4 titularisations seulement avant la Coupe du Monde.
Alors qu'à moitié, parce qu'on sait que Gareth Southgate vient un petit peu du sérail des équipes nationales anglaises de jeunes. Il est entraîneur des moins de 21. Et justement, l'année passée, j'ai eu la chance d'aller à l'Euro moins de 21 en Pologne avec mes collègues de l'ASF. Et là, on avait vu à l'œuvre Jordan Pickford avant qu'il signe justement à Everton. Il sortait d'une saison avec Sunderland, nous avait été relégué. Et on l'avait trouvé très bon, ce gardien-là. Donc je pense que celui qui le connaissait le mieux, c'est effectivement Gareth Southgate.
Christophe Moulin, est-ce que vous avez le sentiment que Jordan Pickford se révèle réellement au cours de cette Coupe du Monde?
Alors c'est clair, ça va de match en match, il prend confiance. Maintenant, les Anglais l'ont mis sur un piédestal. C'est un jeune gardien, il n'a que 8 sélections. Pour l'instant, il donne confiance à tout le monde. Mais il faut attendre pour voir encore, c'est clair.
Il doit aussi peut-être garder les pieds sur terre, ça c'est l'essentiel.
Ouais, je pense, mais de notre côté, je pense que c'est un de ces gars qui vient un petit peu d'Angleterre profonde, comme l'a dit Jérôme tout à l'heure. Et puis je pense que c'est un gars qui aura les pieds sur terre, j'imagine. Ouais.
Alors Christophe Moulin, on va revenir sur se focaliser sur ce match de ce soir entre l'Angleterre et la Croatie. Que vous inspire cette confrontation d'une manière très générale?
Alors, de façon générale, c'est un match pour moi très intéressant à plus d'un titre. C'est déjà deux équipes surprises qui vont s'affronter. On n'attendait pas vraiment les Anglais, en tout cas pas les Anglais les attendaient eux-mêmes. Et la Croatie, il faut se rappeler qu'elle sortait d'un barrage contre la Grèce. Donc je pense pas qu'ils faisaient figure des favoris et même pas des outsiders. Donc déjà, ce côté-là est intéressant pour moi. Ces deux équipes qui ont montré un certain potentiel offensif. Pour l'instant, c'est parmi les deux équipes pour marquer le plus de buts. 11 à 10 pour les Anglais. Et puis là, peut-être qu'il y a une opposition de style entre deux équipes. Une de routiniers vraiment avec les Croates, composés de joueurs qui sont dans les plus grands clubs d'Europe. Et les jeunes Anglais en face. Donc j'ai vu les statistiques. Là, les Croates ont 60 sélections de moyenne contre 26 chez les Anglais. Et à la fin, si on parle de joueurs, on pourrait dire aussi que c'est le meilleur buteur actuel de la Coupe du Monde, Harry Kane, qui va jouer contre peut-être le meilleur joueur actuel de cette Coupe du Monde, Modric.
26 sélections de moyenne pour l'équipe d'Angleterre, 60 pour la Croatie. Ce chiffre que vous révélez, il nous paraît quand même considérable. Cette différence entre les deux équipes, c'est énorme, non?
Oui, c'est impressionnant. On peut voir des Rakitic qui ont pratiquement 100 sélections. Modric, on a plus que 100. On a des joueurs comme Lovren qui est là depuis un moment. Mandzukic, on connaît aussi de la Juventus. Et en face, le joueur qui a le plus de sélections chez les Anglais, c'est Henderson, le capitaine de Liverpool, qui en a que 43. Donc ça s'échelonne. On se dirait les 8 sélections de Pickford et les 43 de Henderson. Et ils ont tous une vingtaine de sélections, en fait.
Comment jugez-vous l'apport des deux coachs respectifs qui ont véritablement, semble-t-il, métamorphosé ces deux nations, ces deux équipes?
Alors disons que si on commence par la Croatie, Dalic, lui, c'est un coach qui est arrivé très tard. C'est un coach qui a pris son équipe nationale quand elle était en difficulté dans les qualifications. Il les a pris pour un match décisif, sauf erreur, contre l'Ukraine à l'époque. Et ensuite, il a pris les barrages et ils ont passé. C'est un entraîneur qui a un petit peu modifié le style de son équipe. On se souvient d'une équipe de Croatie très joueuse par le passé. Très joueuse en 2016 à l'Euro, mais en 2016, ils ont passé à la trappe en 8e de finale contre le Portugal. Et maintenant, elle a un petit peu changé son style de jeu, cette équipe de Croatie, où elle joue un petit peu plus long quand même. Elle joue plus par de longues diagonales, en combinant un peu, et elle joue vite sur les ailiers. Donc le style de jeu a un petit peu changé. Chez les Anglais, ce que je dirais, c'est que Southgate a mis un petit peu de la nouveauté aussi. On est sorti du football anglais traditionnel 4-4-2 rigide, même si Hudson, à l'époque, avait voulu faire quelque chose de plus élaboré. Et puis on a quand même des joueurs assez techniques, assez rapides. Donc on a vraiment deux styles de jeu très intéressants.
Et Christophe Moulin, on a presque envie de dire que du côté de l'Angleterre, il n'y a pas eu évolution, mais quasiment révolution avec l'arrivée de ce nouvel entraîneur, non?
Alors oui, c'est clair. La première révolution pour lui, c'était de sortir de son effectif des joueurs un petit peu difficiles à gérer, je pense, pour un jeune entraîneur comme lui. Je dis jeune, parce que finalement, Gareth Southgate, il a très peu d'expérience comme entraîneur de club. Je me souviens qu'il avait fait peut-être 2 ans comme entraîneur de Middlesbrough à l'époque en première ligue anglaise. Et puis après, il n'a pas eu de job pendant un moment. Puis après, il a eu sa chance dans les équipes de jeunes anglaises. Donc ce qu'il a fait au départ, c'est se séparer de Rooney et de Joe Hart, le gardien.
Mais c'est vrai aussi pour la Croatie, hein, la nomination d'Alic, c'était une surprise. À l'époque, ce n'est pas si vieux que cela, moins d'une année, si je ne m'abuse, 7-8 mois, c'était aussi une surprise. Et il a quand même réussi à transformer cette équipe, à faire quelque chose de solide avec cette formation.
Alors oui, c'est un entraîneur qui n'était pas très connu pour nous, en tout cas, mais qui était connu en Croatie, qui avait joué dans des clubs croates en tant que professionnel. Maintenant, c'est vrai que c'est un joueur qui a réussi à conserver les forces de son équipe et puis amener quelque chose d'un petit peu différent. Et encore une fois, si on parle de statistiques, la Croatie actuellement, c'est l'équipe de la Coupe du Monde qui procède le plus par jeu long. elle met pratiquement 48 longs ballons par match. Mais c'est pas des longs ballons n'importe où, on court après, c'est pas un vieux kick and rush irlandais. C'est plutôt des longues diagonales sur les ailiers qui sont très rapides et ils ont justement d'autres cordes à leur arc avec cet entraîneur, ce qui est intéressant en fait.
Alors lorsque l'on dit que la Croatie est une équipe joueuse déjà, qu'est-ce que ça veut dire une équipe joueuse?
Bah, c'est une équipe qui est capable de combiner, qui est capable de jouer à trois, de jouer court, de partir d'un côté, d'aller sur l'autre. Effectivement, avec un milieu de terrain composé de Modric et Rakitic, bah, c'est dommage de sauter ce milieu de terrain. Donc, c'est souvent eux qui décrochent et qui alignent après les ballons sur les ailiers. Mais c'est une équipe qui est capable de combiner, justement. Capable de jouer court, mais jouer long.
Ouais. Ça veut dire, Christophe Moulin, que ce n'est pas une équipe qui joue uniquement au sol, passe courte à l'image de l'Espagne, par exemple?
Non, justement, elle est difficile à prévoir et c'est une de ses qualités d'ailleurs. C'est pas pour rien que pour l'instant, de tous les buts marqués, il y a eu 9 buteurs différents dans cette équipe. Donc on sait pas d'où ça vient. On dit ouais, Mandzukic, c'est l'attaquant de la Juventus, il met des buts, mais il en a pas mis beaucoup. Je crois qu'il en a mis qu'un. Et le meilleur buteur actuel, c'est Modric, il a que 2 buts, quoi. Donc c'est une équipe qui est capable d'amener différentes choses dans son jeu, ce qui est très intéressant. Est-ce que je dirais l'Angleterre n'a pas pour l'instant. L'Angleterre, c'est plutôt un jeu en 3-5-2 solide, avec des joueurs peut-être vifs, techniques, mais un jeu plus stéréotypé et moins de créativité.
Si on revient sur la variation de ce jeu croate, c'est dû aussi, le mérite revient aussi à la qualité de ses joueurs, parce qu'il faut quand même des joueurs qui techniquement soient au top.
Exactement, c'est clair, on les connaît les Croates, ils ont toujours été très très bons sur le plan technique, déjà depuis l'époque dorée de 1998, quand ils avaient les Boban, Prozinecki, Suker et tout cela. Et depuis lors, on a appris à les connaître et chaque fois qu'ils ont une équipe nationale à une compétition majeure, ils sont présents sur le plan technique. C'est une équipe de joueurs techniques, c'est clair. Ouais.
Et du côté de l'Angleterre, on parle beaucoup de ce jeu aérien, de cette solidité physique justement, de cet impact physique, c'est une réalité?
Alors, disons que je dirais qu'ils ont un impact physique très impressionnant sur balle arrêtée, mais par contre, ils essayent de jouer quand même. Ils essayent de jouer, je dirais, un football assez récité, plus qu'un football créatif. Par contre, sur balles arrêtées, ils font mal.
Alors justement, les balles arrêtées, l'Angleterre fait mal, c'est sa force durant cette Coupe du Monde. Et vous me dites, que vous n'êtes pas réellement surpris. Pourquoi?
Non, parce qu'en fait, c'est un petit peu la mode maintenant dans les fédérations d'engager des entraîneurs spécifiques. En Suisse, maintenant, il y a des entraîneurs spécifiques pour les attaquants, aussi pour les défenseurs. Et les Anglais, eux, ont engagé quelqu'un qui a une société un peu freelance, qui s'appelle Alan Russell. Et lui, il a la charge de s'occuper des attaquants et des balles arrêtées. Donc c'est lui qui prend l'équipe quand elles s'entraînent dans les balles arrêtées. Ils font que ça avec lui et ils ont déjà amené quelques modifications intéressantes sur le plan des balles arrêtées dans les matchs qu'on a pu voir.
On dit que dans le football moderne, les balles arrêtées vont devenir de plus en plus décisives. C'est une réalité et si on consulte les statistiques de cette Coupe du Monde, ça sera encore plus une réalité à l'avenir, à votre avis?
Alors, ça a toujours été. Hein, les balles arrêtées à chaque Coupe du Monde, ça a toujours été plus d'un tiers des buts marqués. On constate à cette Coupe du Monde qu'il y a énormément de buts sur corner, ce qui m'étonne quand même, parce que parfois le danger venait aussi sur les coups francs de côté ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a des buts sur corner aussi, parce que maintenant les défenseurs sont un peu plus embêtés qu'avant. Ils sont en difficulté avec le marquage à la culotte, avec ce système de VAR, comme on dit, et c'est pas forcément évident pour les défenseurs maintenant. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on doit faire attention maintenant sur corner quand on défend, en fait.
Christophe Moulin, j'aimerais juste revenir par rapport à la Croatie sur cette présence physique. La Croatie qui a disputé 2 matchs jusqu'en prolongation, 2 matchs gagnés au pénalty. On l'a dit un peu au bout physiquement. C'est une réalité ou c'est un mythe?
Alors je pense que c'est une réalité. Elle a joué 2 matchs en 6 jours, 120 minutes. Moi, ce que je me dis, c'est que quand on a vu les 30 dernières minutes contre les Russes, ils étaient vraiment au bout, les gars. Là. Il me semblait qu'ils avaient du mal à avancer. On a même vu des joueurs un peu blessés, Versalico notamment, le latéral droit. On a aussi vu Subasic, le gardien, blessé, pas blessé. Il me semblait que certains joueurs étaient au bout. On a même vu à la fin Rakitic qui voulait pas aller à l'interview parce qu'il était trop fatigué pour ça. Est-ce qu'ils ont eu le temps de récupérer? Il n'y a pas eu beaucoup de temps depuis la dernière rencontre. Ça va être difficile de ce côté-là pour eux. Et c'est pas une équipe de tout jeune. Hein, donc je pense que la récupération, elle prend aussi plus de temps pour ces joueurs-là.
De ce côté-là, ça pourrait être un handicap?
Alors, je pense tout à fait, ouais. D'autant plus que c'est une équipe qui était très forte en début de compétition sur le pressing et tout ça pour gêner l'adversaire. Là, ils pourront plus faire ça. Je pense qu'ils vont devoir se regrouper beaucoup plus bas. Et c'est la meilleure chose à faire contre les Anglais qui sont si rapides en phase offensive, les Sterling, les Ali, les Lingard.
Et de votre côté,
on risque de les voir un peu plus bas, effectivement. Ouais.
Et de votre côté, si vous deviez livrer un pronostic, qu'est-ce que vous diriez?
Alors, j'avais dit 1-0, Suisse-Suède, j'avais dit 1-0, mais c'était malheureusement pas dans le bon sens. Là, je dirais 2-1 pour les Anglais.
Donc, vous pensez quand même que l'Angleterre va passer?
Je pense quand même que sur 90 minutes, elle va passer éventuellement prolongation, mais je vois comme les Anglais passer sur ce match. Et on aura une finale France-Angleterre qui serait aussi très intéressante.
Oui, ça risque d'être de la folie du côté des îles britanniques, enfin du côté plus précisément de l'Angleterre. Christophe Moulin, merci beaucoup pour votre éclairage. On le rappelle donc, la deuxième demi-finale de cette Coupe du Monde, c'est ce soir à 20h entre l'Angleterre et la Croatie. On s'en réjouit déjà. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Les tsars du ballon rond. Le quart d'heure des spécialistes.